Avant de rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, Emmanuel Macron a voulu se promener dans la vieille ville de Jérusalem. La visite a été mouvementée, récit de Frédéric Mettezo. Début des plaidoiries au procès de Harvey Weinstein. L'ancien producteur américain risque la perpétuité pour viol et agression sexuelle. Loïc Loury est au tribunal d'État de Manhattan pour France Culture. Le nouveau coronavirus apparu en Chine a tué pour l'instant 17 personnes. L'OMS se réunit pour voir s'il faut décréter une urgence internationale. Et puis la CGT multiplie ses actions contre la réforme des retraites. Face à elle, l'exécutif hausse le ton. Analyse d'Annabelle Grelier. Emmanuel Macron est en Israël à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Le chef de l'État s'est entretenu ce matin avec le Premier ministre et le président israélien. Lors d'un point presse avec le président Rivlin, il a déclaré que la négation de l'existence d'Israël relevait d'une forme contemporaine d'antisémitisme. Jusque-là, pas de surprise. Mais Emmanuel Macron a ensuite improvisé une longue promenade dans la vieille ville de Jérusalem, imitant en cela Jacques Chirac en 1996. Et bientôt, tout a dérapé. Écoutez le reportage de Frédéric Mettezo.
Tout avait si bien commencé. 2 heures de flânerie dans la vieille ville avec un passage au Saint-Sépulcre, mains serrées, petits mots échangés, ambiance bon enfant. Devant l'église Sainte-Anne, Emmanuel Macron évoque la visite mouvementée de Jacques Chirac.
J'ai bien évidemment une pensée pour lui. On a tous en souvenir des scènes très, très vivantes de notre imaginaire français. Il y avait aussi des malentendus qui avaient été liés à cette visite. J'espère qu'ils seront levés, qu'elle permettra de les dissiper.
Mais voilà.
Non.
Les forces de l'ordre israéliennes veulent entrer dans la possession française. Bousculade, cris. Emmanuel Macron hausse le ton face aux hommes en armes et en uniforme.
Everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me.
Tout le monde connaît les règles. Je n'aime pas ce que vous faites devant moi. Vous sortez, s'il vous plaît. Personne ne provoque personne. On se calme. Quelle sera la réaction des autorités? L'information fait déjà la une de tous les médias israéliens. Emmanuel Macron doit revoir son homologue israélien demain. Sa promenade dans la vieille ville, toujours flanquée d'une sécurité israélienne très nerveuse, s'est poursuivie à l'esplanade des mosquées et au mur des lamentations.
Le programme du président s'en est retrouvé bousculé. Il est censé maintenant rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah. Il est devenu aux yeux de beaucoup de femmes l'incarnation du prédateur sexuel. L'ex-producteur de cinéma américain Harvey Weinstein, accusé par plus de 80 femmes de harcèlement et d'agression sexuelle, est actuellement jugé à New York. La plupart des faits sont anciens et prescrits. Le procès ne concerne qu'une petite partie d'entre eux, mais il risque tout de même la perpétuité pour viol et agression sexuelle. Loïc Loury, vous vous êtes rendu au tribunal d'État de Manhattan pour assister aux plaidoiries d'ouverture de ce procès très médiatique.
La peur, la honte, l'humiliation, voilà ce qu'ont ressenti les victimes d'Harvey Weinstein. Les mots sont ceux de Joanny Luzzi, la procureure en charge du dossier. C'est elle qui prend la première la parole face au jury. L'ex-producteur blafard reste lui la tête baissée sur ses notes, discute avec son avocate. Il ne regarde pas les photos qui s'affichent sur un écran géant, celles de sa gloire passée et les visages, surtout de ses accusatrices. Harvey Weinstein est un violeur, un prédateur. Il a utilisé son pouvoir pour s'assurer du silence de ses victimes, dit Joanny Luzzi, qui se détourne un moment du jury pour pointer du doigt le producteur déchu. La procureure raconte dans le détail chaque agression, le viol de l'actrice Annabella Sciorra pour commencer. Elle lui a dit non, elle lui a dit de partir, mais il était sur elle, il la tient, sort son sexe et la viole. À ce moment-là, une photo d'Harvey Weinstein s'affiche à l'écran, il est au sommet, tout sourire, une main ouverte, étendue, comme sur le point de saisir quelque chose.
Loïc Loury, à New York. Un poste honorifique mais un symbole fort. La Grèce va devenir le 8e pays européen avec une présidente. Katerina Sakellaropoulou a été élue à la majorité absolue ce matin par le Parlement grec. Elle a recueilli les voix de la gauche comme celle de la droite. Une première, Angélique Kourounis.
En Grèce, une femme sur cinq est au chômage, mais pour la première fois, le président du pays sera une présidente. C'est la magistrate Katerina Sakellaropoulou qui va relever le défi, nommée par la gauche à la tête du Conseil d'État. C'est pourtant le premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis qui l'a proposée comme candidate. Elle a été élue au premier tour, preuve s'il en est du consensus politique dont elle bénéficie, mais pas seulement. Présentée comme une ardente défenseure de l'environnement, elle n'a pas hésité, souligne ses détracteurs, à autoriser un projet minier des plus controversée en Grèce ces 10 dernières années, suscitant la colère des militants écologistes et des habitants de la région menacée. Sensible à la crise que traverse le pays, elle a eu pourtant une attitude des plus ambiguës sur la question des baisses des retraites, dénonce une partie de la presse. Pour autant, avoir une femme présidente dans un pays des plus machistes de l'Union européenne ne pourra que faire avancer la cause du droit des femmes, relève l'ensemble de la presse grecque.
Angélique Coronis à Athènes. Juan Guaido, le chef de l'opposition vénézuélienne, est en tournée européenne. Après avoir vu Boris Johnson, il a rencontré aujourd'hui le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, à Bruxelles. Un an après s'être proclamé président par intérim, Juan Guaido est toujours en quête de soutien. Sa promesse de renverser Nicolas Maduro n'a pas été tenue. La crise politique, économique et sociale continue au Venezuela et il y a aussi une crise environnementale. Le lac Maracaibo, à l'ouest du pays, subit en effet une marée noire permanente. Cet ancien paradis du pétrole vénézuélien est aujourd'hui un cimetière d'installations pétrolières abandonnées où les fuites de pétrole sont chaque jour plus nombreuses. Les premières victimes de ces fuites, ce sont les pêcheurs qui continuent malgré tout leur travail. Écoutez le reportage de Benjamin Delisle.
À Cabimas, tous les pêcheurs vivent dans des cabanes sur pilotis. Les poutres, les murs, le sable, tout ici est noirci par les hydrocarbures. Des nappes flottent ici et là et le reste de l'eau est recouverte d'une pellicule chimique et multicolore. Giovanni est le plus ancien pêcheur du coin.
C'est un phénomène récurrent depuis 6 ou 7 ans. Au début, quand il y avait une fuite, elle était contenue. Mais depuis 2015, plus rien. Ils ne nettoient même plus. C'est du pétrole qui arrive sans interruption. On ne peut même plus marcher sur la côte.
Ils, ce sont les autorités et en particulier la PDVSA, l'industrie pétrolière publique. Avec la crise économique, la production de pétrole est tombée sous la barre symbolique du million de barils par jour en 2019, contre 3 millions il y a 10 ans. En quasi-faillite, la PDVSA a dû abandonner la plupart des puits de forage qui font face aux cabanes de pêcheurs. Des centaines d'installations qui s'abîment et déversent des litres de pétrole dans le lac. Et depuis quelques mois, l'entreprise ne gère même plus les conséquences catastrophiques de ces marées noires.
Ils nous disent que les caisses sont vides, qu'il n'y a pas d'argent pour nettoyer la côte, pour récupérer le pétrole, pour contrôler les fuites. Ils disent qu'ils n'ont même plus de matériel. Voilà ce qu'ils disent.
L'autre conséquence de la chute de la production du pétrole, ce sont les pénuries d'essence. Elles sont de plus en plus fréquentes, assure Giovanni.
Ils nous rationnent 80 litres tous les 3 jours, mais ce n'est pas suffisant. Nous, chaque jour, on consomme 60 à 70 litres selon où on va, d'autant qu'on a besoin d'essence pour nettoyer les bateaux.
Car c'est paradoxal, mais l'essence est le seul moyen efficace pour laver les coques noircies ou retirer les taches qui se forment sur les bras et les jambes des pêcheurs. Évidemment, c'est très mauvais pour la santé et cela dégrade aussi les moteurs et les filets de pêche. Une situation de plus en plus compliquée à gérer financièrement selon Liberio, qui dirige une coopérative de pêcheurs.
Avant, ils nous remboursaient les dégâts sur les filets et sur les bateaux. Et maintenant, ils ne paient plus rien. La vente de poissons ne rembourse pas les frais de la pêche. Il faut toujours aller plus loin pour trouver un endroit où il n'y a pas de pétrole et pouvoir pêcher. La production a baissé d'environ 90%.
Beaucoup de pêcheurs sont partis, d'autres ont mal tourné. Certains s'adonnent désormais à la piraterie qui a explosé sur le lac. Et ils n'hésitent pas à s'attaquer à leurs anciens camarades.
Moi, on m'a volé plus de 100 moteurs et on m'a volé 6 bateaux grands comme celui-là. Ils m'ont tout volé, ils m'ont laissé sans rien.
À Maracaibo, non loin de là, Pablo Emilio suit de près le triste sort des pêcheurs. Ce scientifique travaille depuis 50 ans sur la pollution du lac, mais il assure ne plus pouvoir travailler comme avant.
Aujourd'hui, les écologistes, les ONG écologistes sont désemparés. On ne trouve même pas d'informations. C'est très difficile de savoir exactement ce qui se passe. Par exemple, on nous a interdit de survoler le lac à cause des fuites de pétrole.
Selon lui, la marée noire actuelle est la conséquence de décennies de laisser-aller. À part un plan de contingence dans les années 70 qui a vite été abandonné, il assure que rien n'a jamais été fait pour se préparer à une éventuelle catastrophe comme celle induite par la crise économique actuelle.
Il n'y a pas le contrôle nécessaire. Et comme ils n'ont plus d'équipement, les fuites se multiplient. Il faudrait un plan de contingence, le réhabiliter et refaire ce qu'on faisait avant.
Sauf qu'un tel plan coûte cher et que l'État n'a plus d'argent. Donc à moyen terme, les fuites vont continuer, voire même s'amplifier.
Benjamin Delisle, correspondant de RFI au Venezuela. Réunion de crise à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé se penche sur le nouveau coronavirus apparu en Chine. Selon les autorités chinoises, le virus a entraîné la mort de 17 personnes et 544 cas ont été recensés dans le pays. Après la Thaïlande, le Japon, la Corée et Taïwan, les États-Unis ont annoncé avoir identifié un premier cas sur leur sol. S'agit-il pour autant d'une urgence sanitaire de portée mondiale? C'est ce que l'OMS doit trancher, Jérémy Lange.
Endiguer l'épidémie sans provoquer une psychose, c'est tout le défi du comité d'urgence de l'OMS. Les dernières informations laissent penser à une propagation du virus bien au-delà des frontières de la Chine, avec des cas confirmés en Thaïlande, au Japon, à Taïwan, en Corée, aux États-Unis et peut-être même au Mexique. Sauf que, même si les cas positifs se multiplient, cela ne suffit pas à déclarer une urgence sanitaire de portée mondiale. Tariq Jazarevitch est le porte-parole de l'OMS.
Si vous testez plus de personnes, vous avez plus de chances d'avoir des cas positifs. Cette augmentation qu'on constate, c'est exactement ça. C'est parce que la Chine a intensifié sa surveillance. Ce qui est important, c'est plutôt de savoir si le système de santé est capable de rapidement détecter et soigner les personnes malades. Et comment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'infection nosocomiale dans les centres de santé.
Peu d'informations circulent encore sur les personnes contaminées, mais des membres du personnel de santé seraient concernés. Une transmission au sein des hôpitaux, c'est ce qui s'était passé au moment de l'épidémie du SRAS en 2003. L'épisode aura au moins permis à la Chine d'améliorer sa réponse face à ce genre d'événement. Très décrié, y compris par l'OMS en 2003, les autorités chinoises ont cette fois identifié, décodé et partagé les informations sur le virus en moins de 2 semaines. Une équipe de l'OMS est en ce moment sur place pour évaluer la situation.
Jérémy Lange à Genève. C'était une figure des Monty Python. Le comédien et réalisateur britannique Terry Jones est mort. Il avait 77 ans. Il avait co-réalisé la comédie culte Sacré Graal avec Terry Gilliams en 1975 et réalisé La vie de Brian en 1979, Antoine Gignot.
Cette idée de parodier le Christ sur sa croix en train de siffloter dans le film La vie de Brian, c'est lui qui l'a eu. Lâché par les investisseurs qui craignaient le scandale, Terry Jones est allé au bout du long métrage qui reste son testament comique. Mais le réalisateur a aussi travaillé sur des dizaines de projets, du plus drôle au plus sérieux. Des films comme Sacré Graal, un dessin animé pour enfants sur les dragons, mais aussi des documentaires télévisés, notamment sur les croisades. Emporté par une rare forme de maladie dégénérative du cerveau. Il était hospitalisé ces derniers temps. Nous avons perdu, disent les membres de sa famille, un homme gentil et chaleureux dont l'humour extraordinaire a réjoui des millions de personnes pendant près de 6 décennies. Un homme qui trouvait les contes de fées trop effrayants pour les lire à sa fille et qui avait donc décidé d'inventer ses propres histoires. On y trouve une réinterprétation de Faust, un conte sur l'énergie nucléaire et un livre sur un enfant qui tire la langue au Premier ministre, devenu depuis une comédie musicale. C'est ce ton irrévérencieux dont se souviennent les médias britanniques ce soir, qui rappelle aussi sa prise de position contre la guerre en Irak avec des chroniques régulières dans les journaux rassemblées dans un livre sorti en 2004.
Antoine Gignot. Pour s'opposer à la réforme des retraites, la CGT multiplie les actions. La mobilisation dans la rue ne suffisant pas à faire fléchir le gouvernement, elle recourt à des actions plus radicales comme les opérations Port Mort et les coupures d'électricité sauvage. Après une coupure de courant dans une entreprise en Dordogne, 2 agents d'Enedis ont été placés en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Aurélie.
Cela ne dissuade pas la CGT qui cible maintenant aussi les centrales électriques.
Oui, les grévistes de la centrale nucléaire de Gravelines dans le Nord ont reçu la visite et le soutien aujourd'hui du patron de la CGT, Philippe Martinez. Mais c'est surtout l'usine hydroélectrique de Grand-Maison, la centrale de Grand-Maison, la plus puissante de France, qui attire toutes les attentions ce soir. C'est une première. Jamais une grève n'avait touché cette centrale qui gère une bonne partie de notre réseau électrique et particulièrement les pics de consommation. Elle régule et permet d'éviter les blackouts. C'est elle qui est à l'origine de la coupure d'électricité de Rungis et d'Orly. Écoutez Rudy Prepoleski, secrétaire général CGT Énergie Isère.
Les programmations de production électrique sont aux mains des grévistes. Il n'y aura pas de coupure puisque notre volonté n'est pas de faire peur aux Français et ceux qui utilisent l'électricité, mais c'est bien de donner un pouvoir d'action spécifique sur la réforme des retraites et de dire que, attention, nous avons les mains sur notre outil de travail et sur le réseau électrique.
Voilà, des grévistes qui, avec la CGT, se sont installés en piquet de grève reconductible pour une durée indéterminée. Ils décideront, disent-ils, de la suite à donner à leur mouvement dans les prochains jours.
Annabelle Grelier, nous vous avions déjà parlé de la polémique autour de la circulaire Castaner. Eh bien, elle continue d'enfler. L'Association des maires de France demande au gouvernement de faire marche arrière alors que le ministre de l'Intérieur affirme lui avoir répondu à une demande des maires. Cette circulaire modifie les règles permettant de lire politiquement et au niveau national le résultat des élections municipales et l'opposition dénonce une volonté de brouiller la lisibilité des résultats et de gonfler les scores de La République En Marche, Stéphane Robert.
Oui, d'abord cette circulaire instaure une nouvelle nuance pour déterminer la couleur politique d'un maire. LDVC, liste divers centres, elle n'existait pas jusqu'ici et elle pourrait être attribuée par la préfecture à un élu investi par La République En Marche ou simplement soutenu par la majorité, ce qui irrite profondément le député de droite et nouveau président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, Damien Abad. Il parle de possibles basculements artificiels.
Je vous prends l'exemple dans ma circonscription de la ville d'Oyonnax. Le maire, il est UDI, il est avec nous dans la majorité départementale. Il a sur sa liste des candidats LR. Le risque, parce que La République En Marche le soutient, parce qu'ils n'ont pas d'autres candidats, eh bien c'est que finalement on fasse un nuançage divers centres au lieu de divers droites, et que donc on explique que la ville d'Oyonnax est passée de la droite au giron de la majorité présidentielle, alors même que rien n'aura changé. Ça, c'est pas admissible.
Autre nouveauté apportée par cette circulaire, les préfets n'attribueront plus de nuances politiques, droite, gauche, divers droite, divers gauche, aux communes de moins de 9000 habitants, quand bien même les élus revendiquent une étiquette. C'est, selon le sénateur socialiste Patrick Kanner, une manière de rendre invisible un grand nombre de petites villes.
Vraiment, c'est une manipulation, c'est un camouflage. Vous allez vous retrouver finalement le soir du premier tour avec une carte où il y aura une grande partie grisée. Eh bien, ce sera sans étiquette, ce sera celle voulue par le pouvoir en place. C'est plus le nouveau monde, c'est le monde, excusez-moi l'expression, mais modèle Staline, quoi. Hein.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, affirme quant à lui avoir répondu à une demande des associations d'élus.
Nous nous étions engagés à faire droit à la demande de l'Association des maires ruraux de France et à l'Association des maires de France. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris, mais plutôt que d'éructer, lisez leur propre communiqué de presse.
L'AMF, l'Association des maires de France, rétorque aujourd'hui au ministre qu'elle avait demandé à ce que le seuil pour l'attribution des couleurs politiques soit fixé à 3500 habitants, pas 9000. 3500, c'est le seuil en dessous duquel on parle de communes rurales. L'ensemble de l'opposition du Parti communiste jusqu'au Rassemblement national affirme qu'il y aurait là une volonté de gommer, d'effacer une lecture politique des résultats selon le clivage droite-gauche qui prévalait jusqu'ici et soupçonne la majorité présidentielle de vouloir masquer partiellement la défaite qui lui est promise aux élections municipales du fait de son manque d'implantation locale.
À suivre. Merci Stéphane Robert. Elle accusait Pierre Joxe d'agression sexuelle. L'écrivaine Ariane Fornia a été condamnée pour diffamation. Le tribunal considère qu'elle a jeté le discrédit et l'opprobre sur l'ancien ministre sans étayer ses accusations. La nouvelle loi justice s'attaque au dossier de la surpopulation carcérale. Le texte, qui doit entrer en vigueur fin mars, a vocation à réduire le nombre de peines de prison ferme et donc à désaturer ainsi les établissements pénitentiaires. Bonsoir Pauline Renoir.
Bonsoir.
Près de 70 000 détenus en France à la fin de 2019, c'est un peu moins qu'en 2018, mais 122 établissements pénitentiaires dépassent toujours leur capacité maximale d'occupation alors que le nombre de condamnations ne cesse d'augmenter.
Oui, plus de 125 000 peines de prison ferme prononcées chaque année, c'est trop pour la chancellerie qui, avec ce texte, promet que 90% d'entre elles peuvent être aménagées. Bracelets électroniques, travaux d'intérêt général, interdiction des peines de moins d'un mois. Des propositions bien connues du syndicat de la magistrature, mais pas forcément efficaces dans le cadre des comparutions immédiates. La présidente du syndicat, Katia Dubreuil.
La manière dont on juge ces faits juste après la garde à vue de la personne et dans des conditions d'abattage, hein, puisque les audiences de comparution immédiate à Paris, à Bobigny ou à Créteil, ça se termine souvent très tard le soir, beaucoup de dossiers à juger, fait qu'effectivement, il n'y a pas suffisamment de temps pour prendre du recul sur la personnalité, la situation de la personne et trouver la peine qui pourrait être totalement adaptée.
Si plus de peines aménagées sont prononcées, il ne faut pas négliger le suivi de l'individu. Christophe Soulet est le chef de l'Observatoire national de la délinquance.
Dans les services d'insertion et de probation, il y a un manque de moyens important. Vous avez effectivement des personnels qui suivent aujourd'hui des dizaines, voire des centaines de dossiers et qui ne peuvent pas donc les suivre efficacement. Pour moi, ce n'est pas un texte révolutionnaire, c'est un texte qui peut éventuellement, encore une fois, inciter les magistrats à se poser des questions et à peut-être mieux individualiser, sachant que, bien entendu, les magistrats demeurent indépendants lorsqu'ils prononcent à un moment donné la sanction. Je ne vois pas de grand bouleversement arriver suite à l'adoption de ce texte.
Et Christophe Soulet écarte l'idée de construire des prisons neuves. Elles elles seront tout aussi vite remplies et saturées, selon l'Observatoire de la délinquance.
Pauline Renoir, l'Aude et les Pyrénées-Orientales sont placées en vigilance rouge crue et en vigilance orange inondation. La nuit prochaine, un nouveau passage pluvieux va remonter d'Espagne et concernera jusqu'en matinée les deux départements. Ces pluies faiblieront demain vers la mi-journée. Sur la région PACA et la Corse, le ciel restera très nuageux avec des pluies éparses. Sur le reste du pays, temps calme et sec. Et il fera moins froid, de moins 3 à plus 2 degrés le matin sur une grande moitié nord-est, de 3 à 12 ailleurs, 6 à 10 l'après-midi sur la moitié nord, 10 à 15 au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.